Merci de pour cette opportunité de vous présenter Green Value. Alors, avant de commencer à présenter notre ce que nous faisons, je souhaitais partir du titre. Et le titre est très intéressant, David contre Goliath, donc je vais faire un peu de catéchisme. L'idée de David contre Goliath, ce que nous apprend la Bible, c'est que bah, finalement, c'est quelqu'un qui n'était pas très fort, qui a réussi à battre le champion des Philistiens avec une pierre envoyée au bon endroit. Et je voudrais juste que vous reteniez cette idée-là, une pierre, bon endroit. C'est à peu près ce que disait Archimède quelques années avant, qui était de « donnez-moi un point et je soulèverai le monde ». En gros, je pense que maintenant, à part M. Trump, tout le monde est d'accord avec ce graphe. En gros, on est quelque part là, et il faut qu'on soit là. Donc, c'est très simple. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le point qui est là correspond à une allocation du capital dans l'économie d'une certaine manière. En fin de compte, on investit, on utilise un peu de voitures thermiques, notre mobilité, elle émet du CO2, on ne s'occupe pas trop de l'eau qu'on pollue, on ne s'occupe pas très bien des personnes qu'on emploie, et ainsi de suite. Je pense que tout ça, c'est un peu ça. Et finalement, si je reprends un peu cette idée de où est-ce qu'il est le point qu'il faut aller taper, où est-ce qu'il est le point névralgique pour Goliath, ben il est un peu dans cet enrouage qui est bloqué. Et si on ne le débloque pas, ben on n'arrivera pas à faire cette descente. Alors, quelle que soit la couleur du graphe que vous voulez, mais si déjà on inverse la tendance, c'est pas mal. Alors, je voudrais revenir à la pierre. En finance, on a quelque chose qui est très important, qui est le CAPM. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, c'est très simple. Vous avez un actif, il y a un risque, et il y a qu'est-ce que vous attendez comme rendement. Et là, je vais vous poser une question. Je vous donne deux actifs. Le premier, c'est une obligation émise par la société X qui génère 1% de rentabilité, mais qui émet une tonne de CO2. À côté, une autre obligation émise par la même personne, par la même société, qui génère 0,5%, mais qui absorbe une tonne de CO2. Laquelle vous préférez? A ou B?
Excellente réponse.
Le problème, il est là. C'est que ben, finalement... Je ne sais pas. Si je regarde juste comment on travaille, hein, vu que je vous ai dit que c'est le même émetteur, ben, finalement, c'est du risque de contrepartie. Donc, on est sur la verticale, hein, comme ça. Et finalement, ici, vous avez 0,5. Ici, vous avez 1. Donc, bien entendu, P est supérieur à 0,5. 1 est supérieur à 0,5. Donc, je prends la première. Si on ne change pas notre façon de voir le risque, ben, finalement, on n'y arrivera pas. En revanche, si je vous dis qu'une tonne de CO2 correspond à peu près à 0,75%, ben finalement, je déplace les deux obligations et l'une devient plus intéressante que l'autre. Donc finalement, si on reprend cette image de David contre Goliath et on veut regarder qu'est-ce qui constitue cette pierre, ben finalement, c'est la façon avec laquelle on évalue les risques. Et c'est là où on arrive à cette question-là et c'est un peu l'idée de Green Value, c'est-à-dire, ben, finalement, comment mesurer les risques systémiques, sectoriels, idiosyncratiques, supplémentaires. Qu'est-ce que ça correspond de l'émission CO2? Qu'est-ce que ça correspond en termes de pourcentage de rentabilité? Et là, alors ça c'est un peu plus complexe, je dirais que c'est un chemin. Le chemin commence par à qui appartient l'actif. Aujourd'hui, lorsqu'on fait, il y a beaucoup, je vois quelques têtes que je reconnais, il y a beaucoup d'analystes financiers ou des gens qui ont fait de l'analyse financière dans leur vie, et on ne regardait pas au niveau granulaire de l'actif. Le problème, c'est que lorsqu'on parle d'émissions de CO2, ou quand on parle d'impact sur la planète, on est obligé de regarder l'actif. Le deuxième élément, c'est d'évaluer les risques physiques. Alors, comment ces actifs vont se développer compte tenu de l'évolution climatique. Puis, vous avez des outils d'alignement. Comment on va arriver à faire la trajectoire? Comment est-ce qu'on est, on est en train de taper sur un horizon 2050-2100 et comment on va arriver, compte tenu des différentes actions, à obtenir les résultats recherchés. Et puis, bien entendu, la suite est tout à fait logique, c'est que si on fait la partie de gauche, ben on arrivera à mesurer l'impact sur les différents actions, sur les différents domaines qui sont les domaines du durable. Et là, ça dépasse bien entendu le CO2, ça dépasse les émissions. Exemple très, très simple. Et puis, je dirais, il y a un élément qui est extrêmement important, c'est le risque de réputation. Très, très clairement, aujourd'hui, ce qui nous pend au nez, c'est le greenwashing. Tout le monde annonce un certain nombre de choses, mais est-ce que c'est vrai? Et là, nous avons besoin, au-delà du fait de pricing, de pouvoir vérifier que c'est vrai, et c'est-à-dire de croiser les informations, etc. Alors, je voudrais les définir en trois challenges, si vous me permettez. Le premier, c'est connecter les points. Connecter les points, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une réalité, mais cette réalité, c'est-à-dire vous prenez la consommation, ou plutôt la production d'énergie, mais la production d'énergie va avoir un impact plein de choses. Bien entendu, l'émission de CO2, mais aussi notre capacité à recycler les différentes choses qui ont été utilisées pour créer cette énergie, et ainsi de suite. Donc, c'est un microcosme qui est complètement lié. Et finalement, nous ne pouvons pas regarder les choses d'une façon siloïsée, mais on est obligé de les regarder d'une façon globale. Le deuxième challenge, c'est énormément d'informations ne sont pas des informations qui sont dans des tableurs Excel. On aime bien les tableurs Excel pour pouvoir faire le petit graphe que je vous ai montré tout à l'heure. Elles sont dans des images. Elles sont dans du document, des rapports. Et finalement, le deuxième challenge, et qui aujourd'hui la technologie est capable de traiter, c'est d'aller récupérer de l'information sur cette image-là qui permettra de vous dire quelle est la chimie de l'atmosphère. Et finalement, si vous avez de la chimie de l'atmosphère à côté d'une usine, on peut présupposer combien elle est en train d'émettre. Et finalement, au-delà de ce que annonce l'émetteur en termes de titres actifs, on peut challenger un peu ce qu'il donne comme information. Et puis, du document classique pour pouvoir en extraire un certain nombre d'informations. Mais il faut aller au-delà de ça. Parce que ce qui se passe, c'est que nous ne faisons pas que lire. Nous ne faisons pas qu'absorber de l'information. Le troisième challenge, c'est pouvoir faire du lire entre les lignes. C'est-à-dire ce que nous faisons tous, en prenant un article, on lit un article et on déduit un certain nombre de choses. Et ces déductions, aujourd'hui, le challenge technologique ou le verrou technologique, il se trouve à cet endroit-là. C'est-à-dire permettre à une machine de pouvoir lire, comprendre et inférer. Et inférer, c'est-à-dire qu'il y a une notion de raisonnement, et qui dit inférer, dit capacité de la challenger. Parce que si aujourd'hui vous faites un raisonnement, vous donnez une conclusion, en règle générale, on vous demande comment vous étiez arrivé, et vous devez être capable de remonter le cheminement de pensée. Donc voilà, c'est les trois challenges sur lesquels nous nous focalisons. Créer de la donnée verte en levant les trois challenges. Connecter les points, extraire de l'information de documents non structurés ou d'informations non structurées, et puis surtout travailler sur cette notion d'inférence qui est ce qui permettra d'aller beaucoup plus vite et d'aller un peu challenger la vision, la présentation, le fait qu'on présente en règle générale les choses, les verres à moitié pleins que les verres à moitié vides. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, nous sommes une structure qui est jeune, on va dire, d'un point de vue lancement, mais nous appuyons sur un existant extrêmement fort. Premièrement, 15 data scientists, puisque nous travaillons avec le Data Lab. Un track record qui est solide, qui a été reconnu par pas mal d'institutions. Nous sommes intégrés au réseau Louis Bachelier. Et puis, nous sommes une équipe polyvalente et surtout très, très motivée pour arriver à lever ces problèmes-là. Et puis, nous bénéficions d'un accès de plus de 50 experts et de scientifiques du réseau. Voilà, ça, c'est les 5 personnes qui ont lancé le sujet. Comme vous pouvez voir, il y a Stéphane parmi nous. Donc, voilà, bah, écoutez, après la